Radio Okapi.
Arrêt de service à l'aéroport de Bangboka, Kisangani. Les agents de la régie des voies aériennes observent un mouvement de grève pour réclamer le paiement des redevances de la compagnie Congo Airways. Du coup, plus de 200 passagers à destination de Goma et de Kinshasa sont bloqués. Forte augmentation des violations et atteintes aux droits de l'homme enregistrées en RDC en décembre 2021. Le Bureau Congé des Nations Unies aux droits de l'homme attribue cette hausse à des groupes armés ainsi que à des agents de l'État, attendez les forces de sécurité. Enfin, nous recevrons dans cette édition du journal Barthélémy Okito. Il est le secrétaire général au sport et rapporteur adjoint du Comité national d'organisation des Jeux de la Francophonie. Il nous fait le point sur l'évolution des travaux de construction des infrastructures qui doivent accueillir ces Jeux ici à Kinshasa. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans la province de la Tchopo, plus de 200 passagers à destination de Goma et de Kinshasa par voie aérienne sont présentement bloqués à l'aéroport international de Bangboka à Kisangani. En cause, l'arrêt de service par les agents de la régie des voies aériennes. Ces derniers réclament le paiement des redevances de la compagnie Congo Airways. Selon le délégué syndical des agents de la RVA, ils manifestent leur mécontentement par rapport au non-paiement de leur salaire depuis une année suite à l'insolvabilité des Congo Airways, dont les arriérés de dette s'élèvent à plus de 564 000 dollars américains. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Arrivé à l'aéroport international de Bangoka depuis 9h heure locale, aucun passager n'a été admis dans l'enceinte de l'aérogare. Les agents de la RVA étaient en train d'exprimer leur mécontentement tout en chantant et en sifflant. Pour Jean-Claude Mouchaba, leur délégué syndical, cette alerte doit faire réfléchir les autorités nationales par rapport à leur situation salariale.
Nous arrivons à faire une grogne pour que nous puissions attirer l'attention des autorités, qu'ils sachent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien à l'RVA Kisangani concernant l'enveloppe salariale.
Un passager debout, ne sachant que faire, exprime son indignation.
C'est une désolation alors qu'on s'apprêtait pour certaines formalités de l'aéroport, mais on est arrêté. C'est comme ça que nous, on est debout.
Pareil pour cette dame, son billet en main.
Tous les passagers de Congo ne doivent pas entrer. Pourquoi nous sommes à l'extérieur, sous le soleil? Et c'est nous qui sommes des victimes.
Paul Longo, chef d'escale de Congo Airways, regrette ce qui s'est passé, surtout que cela ne leur a pas été communiqué à l'avance pour des dispositions utiles. Qu'à cela ne tienne, grâce à l'implication du commandant intérimaire de la RVA, les manifestants sont revenus au bon sentiment et ont commencé à enregistrer les passagers. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Restons à Kisangani, le personnel scientifique de l'enseignement supérieur et universitaire décrète une grève sèche à partir de ce mercredi. Les assistants et chefs de travaux ont pris cette décision au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue dans la salle Vérengen de la faculté des sciences sociales et administratives de l'université de Kisangani. En cause, la non-satisfaction de leurs revendications par le gouvernement, notamment l'amélioration de leurs conditions salariales. Un extrait de leur déclaration est fait par le président du syndicat du personnel scientifique des établissements publics de l'ESU, province de la Tchopo, le chef des travaux François Lissalou Bofando, dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkolé.
Nous, chefs de travaux, assistants et bibliothécaires, réunis en assemblée générale extraordinaire ce mercredi 5 janvier 2022 afin d'évaluer la suite réservée à différentes revendications qui tournent principalement autour de la non-mécanisation et budgétisation de membres, la non-régularisation administrative de la situation du personnel scientifique des institutions de l'ESU, le maintien non justifié de l'écart des salaires entre le personnel académique et scientifique et c'est en violation de l'arrêté ministériel 0036/93 du 25 juin 1993 portant interprétation du tableau synoptique d'équivalence des grades, le refus de l'indexation du salaire au taux du jour par le gouvernement congolais, considérant le mémo équivalent au premier préavis de grève du 6 novembre 2021 adressé au ministre de l'ESU, considérant le préavis de grève déposé par la coordination nationale des SINACAS le 20 décembre 2021 adressé au ministre de l'ESU, les personnels scientifiques de l'ESU section de la province de la Tchopo décrète une grève sèche et illimitée à dater de ce mercredi 5 janvier 2022 et cela jusqu'à la satisfaction de nos revendications.
Dans le même ordre d'idées, à Kananga, les chefs de travaux et assistants ont boycotté hier la rentrée académique. Réunis au sein de leur syndicat dénommé SINACAS, ils ont décidé d'observer le mot d'ordre de grève lancé par leur coordination nationale. Ce corps scientifique réclame l'amélioration des conditions de travail avec une rémunération considérable. Joseph Kachama est le président provincial intérimaire du syndicat national des chefs de travaux et assistants. Ses propos sont recueillis par François Kadima.
Et depuis plus de 15 ans, les professeurs ont connu des augmentations salariales, minimes soient-elles, mais jamais que l'État ne pense aux chefs de travaux assistants et les CPP, qui sont leurs collaborateurs directs. Ce qui nous pousse à considérer ces faits sans une gymnastique intellectuelle comme une méchanceté notoire de la part du décideur et un manque criant de considération au corps scientifique congolais. Nous avons aussi décrié l'écart très considérable et injustifié lorsqu'on sait qu'un professeur associé plus de 2 millions de francs, tandis qu'un chef de travaux, quand on retranche l'hyper sur son salaire, il touche ne serait-ce que 200 $, soit 526 000 francs en francs congolais, tandis qu'un assistant lui touche 109 $ ou 218 000 francs en francs congolais. Nous exigeons de l'État congolais de faire preuve de justice et d'équité en payant aux assistants la moitié des traitements d'un professeur ordinaire avant même l'application des résolutions des États généraux et répercuter l'attention aux autres catégories des corps scientifiques.
La République démocratique du Congo a enregistré 801 violations et atteintes aux droits de l'homme, soit une forte augmentation de 61% par rapport au mois de novembre avec 498 violations. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui les a documentées, note une hausse de nombre d'atteintes attribuées à des groupes armés ainsi que des violations attribuables à des agents de l'État, entendez les forces de sécurité. Les détails sur les différentes tendances de ce rapport avec Jean-Pierre Lali Coco.
Dans son rapport, le bureau conjoint affirme que le nombre d'atteintes aux droits de l'homme, soit 61% attribuable aux Nyatura, aux ADF, FDLR dans le Nord Kivu et la Kadeko en Ituri, ce nombre donc a plus que doublé, tandis que les agents de l'État, c'est-à-dire les FRDC, la police et l'ANR, sont responsables des 39% des violations documentées dans les exécutions extrajudiciaires d'au moins 40 personnes. Autre détail, environ 94% des violations documentées pendant cette crise ont été commises dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika. De toutes les parties en conflit, les militaires des FRDC ont commis le plus grand nombre de violations, tandis que parmi les groupes armés, ce sont des combattants Nyatura qui ont commis le plus grand nombre des atteintes documentées. Au cours du même mois de novembre, des cas de violences sexuelles liées au conflit concernent 70 victimes adultes du sexe féminin. Le bureau conjoint a également documenté 40 violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lien avec l'espace démocratique.
Autre nouvelle, en Ituri, deux professeurs d'université, membres de la communauté Bira, sont aux arrêts depuis mercredi dernier à l'auditorat supérieur près la cour militaire de l'Ituri. Selon cette juridiction, ils sont accusés d'être de connivence avec le groupe armé Forces patriotiques et intégrationnistes du Congo FPIC. Le président de la communauté Bira qualifie cette arrestation de pire machination qui vise à saper les efforts du gouvernement pour la pacification de l'Ituri. Isaac Remuyopi.
Le professeur Bungisha Bakokato de l'université Shalom de Bounia et le professeur Dudanga Kavarios, recteur de l'université d'Isseproma, ont été interpellés mercredi à l'auditorat supérieur près la cour militaire de l'Ituri. Ils ont été dénoncés par un suspect arrêté par cette juridiction, affirme le président de la communauté Bira. Dieudonné Nobirabo fustige l'arrestation de ces deux leaders communautaires qu'il qualifie de montage pour discréditer ces grandes personnalités de la province. Il ajoute que ces deux professeurs sont souvent sollicités par le gouvernement pour la recherche de la paix en territoire d'Irumu, notamment la sensibilisation des miliciens de la FPIC à déposer les armes. Ils plaident pour leur libération pour la promotion de la paix en Ituri.
Nous, communauté, nous sommes vraiment choqués. Nous avons un montage et tout fait, mais tous les deux leaders-là, ils participent à toutes les racontes où on est en train de profiler des stratégies pour comment on arrive à convaincre les enfants égarés à revenir au bon sentiment. Nous exigeons la libération de ces deux.
Nous n'avons pas encore la réaction de l'auditeur supérieur près la cour militaire de l'Ituri où leur dossier est en instruction. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis le chef de service de l'agriculture. l'agriculture, pêche et élevage basé à Kabongo dans la province du Haut-Lomami a été blessé par un policier. La victime et les caucus des députés provinciaux élus de Malembankoulou dans la même province accusent le ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage d'en être l'instigateur. Ces derniers rejettent ces allégations et s'en remettent à la justice. Jean Gandou.
Cet incident s'est produit la veille de la Saint-Sylvestre. Ce chef de l'agriculture, pêche et élevage qui était chez lui dit avoir vu un policier surgir dans sa maison et lui tirer une balle dans la jambe. La victime accuse son ministre des tutelles d'en être l'instigateur pour avoir déjà eu des démêlés avec lui. Elle renseigne aussi qu'elle a fait l'objet d'une autre attaque à l'hôpital de la part d'un autre homme qui serait de l'obédience du ministre précité. L'homme a été maîtrisé et sera très prochainement transféré à Kamina pour y être jugé. Dans l'entretemps, le député provincial élu du territoire de Malembankoulou ont transmis ce lundi leur mémoire au gouverneur de la province du Haut-Lomami, dans lequel ils expliquent les péripéties qui ont conduit à l'incident décrié et pointent du doigt le ministre provincial du développement rural, agriculture, pêche et élevage et sollicitent que ce ministre soit suspendu et que le blessé soit transféré dans un centre hospitalier de Kamina pour sa prise en charge et que sa famille soit déplacée pour sa sécurité. Contacté, le ministre incriminé rejette toutes ces accusations et se demande même comment un ministre de l'agriculture, pêche et élevage peut intimer l'ordre à un policier qui est à plus de 200 km de commettre un tel forfait. Il dit s'en remettre aussi à la justice pour faire éclater la vérité afin que son honneur soit rétabli. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
En santé au Nord Kivu, les nouveaux cas confirmés de COVID-19 ne cessent d'augmenter dans la ville de Butembo. Cependant, la majorité des habitants restent indifférentes quant au respect des gestes barrières et la vaccination. Sadiki Aboubakar nous en fait le point.
La courbe des contaminations est ascendante dans la ville depuis la dernière semaine de l'année 2021. Dans la semaine du 20 au 26 décembre dernier, la ville n'avait notifié que 10 cas de COVID-19. La semaine suivante, soit celle allant du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022, les deux zones de santé de la ville de Butembo ont enregistré un total de 86 cas de coronavirus. Une situation qui inquiète les autorités sanitaires qui appellent au strict respect des gestes barrières et à la vaccination en vue de limiter les contaminations. Cependant, sur terrain, c'est une indifférence totale. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui porte correctement son cache-nez sur le boulevard et dans des milieux publics tels que le marché. Les points de lavage des mains sont quasi inexistants, sauf au niveau des banques et quelques formations sanitaires qui en tiennent rigueur. Dans un point de presse tenu lundi dernier, Damoulou Luavo, communicateur de l'administration sanitaire dans le Grand Nord Kivu, avait déploré le manque d'engouement surtout des femmes dans des sites de vaccination contre la COVID-19. Butembo, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Autre nouvelle, l'ONG Ligue pour la transparence dans le secteur extractif, l'ITRAZ, déclare que le secteur minier en RDC est géré dans un désordre difficile à décrire. Déclaration faite par Adrien Mouignemali à l'occasion de 3 ans d'existence de cette ONG. La l'ITRAZ recommande que les fonds miniers pour les générations futures bénéficient réellement aux jeunes en finançant de bourses d'études et de projets. Adrien Mouignemali est au micro de Fulbert Balolagué.
Lors de la révision du code minier 2018, il y a une innovation très importante que nous considérons une aubaine aux jeunes. C'est le fonds minier pour les générations futures qui est les 10% de la redevance minière. La gestion de ce fonds, nous ne cessons de dénoncer. Il faut que ce fonds puisse être effectivement bénéfice aux générations futures parce que par génération future, ce sont les jeunes et les enfants d'aujourd'hui qui vont préparer ceux qui vont venir demain. Malheureusement, le pouvoir public ne sait pas capitaliser cette innovation qui est d'ailleurs en train d'être mise en place. Dernièrement, le président de la République a nommé les mandataires du fonds minier pour les générations futures sur base de critères politiques et aucun jeune à l'intérieur. Donc le fonds mine, comme d'autres domaines du secteur minier, ne bénéficie pas aux jeunes et aux enfants. Et nous, la l'ITRAZ, nous continuons à marteler pour que les autorités actuelles puissent mettre un accent particulier sur le développement des jeunes. Nous demandons au Premier ministre de pouvoir convoquer une table ronde à laquelle seront associés les jeunes pour essayer de révisiter le décret qui porte sur le fonds mine et mettre dans les objectifs les objectifs qui apportent un changement au niveau de la jeunesse, notamment le financement de bourses et d'études, le financement des projets des jeunes, parce que le fonds mine peut être constitué comme une caisse ou un fonds peuvent alimenter le développement des jeunes.
Actualité internationale.
Au Mali, la rencontre entre Assimi Goïta, président de la transition, et Goodluck Jonathan, émissaire de la CDAO, aura duré plus de 2 heures. Au sommaire, le chronogramme prévoyant un prolongement de la transition jusqu'à 5 ans qui ne passe pas auprès de l'organisation régionale. Pour les autorités maliennes, c'est la voix du peuple qui s'est exprimée. Et puis au Kazakhstan, le pouvoir a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire mercredi soir ainsi qu'un couvre-feu. Mercredi, les manifestants se sont emparés dans les chaos des bâtiments administratifs et des sièges de forces de l'ordre. Plusieurs ont été tués. Déclenché le 2 janvier après le doublement du prix du gaz pour véhicules, le mouvement de protestation s'est vite transformé en critique d'un régime autoritaire et corrompu.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est le secrétaire général au sport et rapporteur adjoint du Comité national d'organisation des Jeux de la Francophonie. Il fait le point sur l'évolution des travaux de construction des infrastructures qui doivent accueillir ces Jeux et fixe l'opinion sur la gestion des fonds alloués aux dits travaux. Barthélémy Okito s'entretient ici avec Enoch Matondo.
Bonjour, c'est Okito.
Bonjour.
Le matériel arrive quand?
En résumé, je vais vous dire que à ce qui concerne le jeu de la francophonie, moi j'étais au conseil des jeux. Le mécanisme qu'on a trouvé, ici il faut féliciter le ministre d'État Guizaro, des ITPR, qui a en fait sauvé les jeux. En fait, on a pris de mettre en place, au lieu de construire tel que nous l'avions prévu au départ, on a décidé de... tous les villages de jeux, avec tous les bureaux, accréditation, services généraux, etc., seront construits en préfabriqué. Déjà, on est en train de faire ce travail à l'extérieur du pays. Il y a eu un financement. Fin janvier, il y a la fin des travaux. Il faut prendre 2 mois. Hein, disons 2 mois. Disons qu'au plus tard, mars, tous les matériels devront être ici, ou même début avril. Le montage prend 2 mois. Donc, disons qu'au plus tard juin, ou à la rigueur fin 15 juillet, on aura déjà le village de jeu au stade Atarafaya. Ça, c'est au niveau de préfabriqué. Pour les autres, en ce qui concerne les gymnases, le hall qui vont servir le judo et le tennis de table, là, il y a eu un avenant au niveau des contrats. Donc, les entrepreneurs sont allés signer des nouveaux contrats. Au moment où je vous parle, on m'a dit déjà qu'il y a la non-objection de la Direction Générale de Marché, c'est-à-dire qui autorise, en fait. Et j'apprends aussi que au niveau de finances, hein, il y a entre 50 et 52 millions qui vont être débloqués rapidement pour qu'on puisse construire la base. C'est-à-dire que et même le gymnase, les 2 gymnases de Stade de Matir, aura comme toit le toit métallique. Hein, qu'on a déjà commencé à fabriquer, et même le 2 halls au stade de Tarafael, judo, etc., toit métallique, et d'ici 4-5 mois, on va construire le mur, la fondation et tout ça, et il faut prendre 2 ou 3 mois pour que cette toile métallique arrive. L'enjeu, c'est le 15 juillet, tout devra être en place pour l'organisation de ce jeu.
On parle de la dilapidation des fonds. Il y a certains contrats signés qui n'ont pas respecté la procédure normale et des contrats avec certaines entreprises sont même résiliés. Est-ce que vous confirmez ça?
Il y a trop de rumeurs qui circulent. D'abord, je commence par les hauts représentants du GTO. Les hauts représentants du GTO n'ont reçu on a versé seulement 2 fois l'argent pour payer les agents. Il n'a pas reçu de l'argent de fonctionnement comme ça. Il a reçu l'argent pour les salaires. D'ailleurs, ils sont en retard, les gens de la Direction nationale des jeux. Je crois qu'ils sont en retard de 4 ou 5 mois, tu es au courant. Il peut pas détourner l'argent qu'il n'a pas eu. Vous comprenez? Ça, c'est un. De deux. Effectivement, quand il y avait des doutes à ce qui concerne le montant déclaré au niveau des entreprises. Au niveau des ITPR, on a mis en place une commission mixte. Cette commission, on a utilisé ce qu'on appelle le bureau technique, BTC. Le bureau technique a repris à zéro le contrôle de chaque projet avec des textes réglementaires. C'est vrai, le montant de départ, c'était 218 millions. Mais avec le BTC 1 et avec la réglementation, on est tombé à plus ou moins 150 millions, parce que si on enlève le TVA, on va tomber à 150 millions. Donc, personne n'a détourné l'argent parce qu'on n'a jamais versé de l'argent. Ça sera la première fois qu'on va verser de l'argent. Il est vrai qu'avec l'ancien comité de pilotage, ils avaient versé 941 000 dollars. Bon, cet argent, le comité international demande toujours les justifications. Thiou est arrivé. Thiou n'a pas eu l'argent. Thiou a réceptionné seulement deux montants qu'on a versés à la banque il a payé dans les comptes. Là, il est resté avec des dettes, des loyers, beaucoup de dettes là-bas.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.